Il s'agit donc d'un sujet qu'on m'a proposé, que j'ai proposé d'aborder au titre de ce cycle de conférences, un petit peu en prolongement d'ailleurs d'un certain nombre de travaux que je mène depuis maintenant plusieurs années autour de la question du statut, disons, de la folie dans le droit contemporain et de manière générale de la normalité psychique. Et juste, je dirais, en cours d'élaboration, une réflexion sur ces travaux, la loi de 2011 est intervenue et elle m'a semblé tout à fait représentative d'un certain nombre d'évolutions fortes que les travaux des sciences sociales mettent en évidence depuis maintenant un certain nombre d'années. Alors, sur ce sujet donc de la législation sur l'internement et les soins psychiatriques, autant annoncer d'emblée la couleur, j'aborderai tout ça dans une optique assumée, qui est une optique que je qualifierais de post-foucauldienne. On connaît l'influence de Foucault sur l'analyse du statut de la folie dans la société moderne et sur ses évolutions. Donc je souhaite rendre, disons, hommage à l'importance de la pensée de Foucault. Mais je dirais, il s'agit ici principalement de l'analyser dans une optique non pas foucaldienne mais post-foucaldienne, et j'entends par là trois choses. D'abord, qu'il s'agit d'analyser la folie saisie par le droit sans pour autant souscrire à toutes les analyses de Foucault. Ne serait-ce que parce qu'on sait que Foucault lui-même, dans l'analyse notamment de la folie à l'âge classique qu'il a faite dans sa thèse, a commis un certain nombre d'erreurs ou d'exagérations. Hein. Marcel Gauchet et Gladys Swain se sont employés à le démontrer dans leurs propres travaux, notamment sur ces thèses relatives au grand enfermement de la fin de l'âge classique. Il s'agit également de ne pas souscrire sans réserve à certaines interprétations, parfois excessives, qui sont faites des travaux de Foucault. Je dirais la critique antipsychiatrique à ses explications, ses justifications, mais on sait qu'elle aboutit parfois à des exagérations. Deuxième chose, donc première chose, il s'agit d'analyser la folie au travers de Foucault sans souscrire à toutes ses analyses. Il faut aussi, je pense, dépasser Foucault dans la mesure où celui-ci analysait des dispositifs qui étaient propres à une période et à un imaginaire lié à la société moderne, qui n'est plus la nôtre. Hein, depuis maintenant la fin des années 70 et le début des années 80, en sciences sociales, il était à peu près établi que nous sommes maintenant entrés dans une phase qui est dite postmoderne et où les fondements traditionnels de la réflexivité ont évolué. Et je dirais, les analyses de Foucault sur la société disciplinaire étaient propres à cette société moderne dans laquelle nous ne nous situons plus. Mais, et c'est là quand même que je crois qu'il faut s'appuyer sur l'œuvre de Foucault, l'idée essentielle de Michel Foucault est quand même de considérer que l'intérêt essentiel du sujet de la folie n'est pas seulement de nous apprendre le sort que le droit et les institutions réservent aux fous. En d'autres termes, en traçant le portrait du fou tel que les institutions juridiques à l'heure actuelle le conçoivent, on voit se dessiner en creux autant le portrait du fou que celui de l'homme normal. En d'autres termes, décider sur la base de critères juridiques qui est fou et qui mérite donc d'être soumis à des soins sans consentement peut nous renseigner assez efficacement, en creux, donc sur la signification et la portée de la notion de santé mentale dans la société contemporaine, et donc dans le droit contemporain. Donc, je vais tenter d'affirmer avec Foucault que l'analyse des dispositifs contemporains de prise en charge de cette anormalité, disons presque radicale, que représente la folie, nous aide à tracer de manière spéculaire en fait le portrait et la figure de la normalité dans la société contemporaine et donc dans le droit contemporain. C'est ce que je vais faire, ou tenter de faire plutôt, et tenter de comprendre ce que tout cela implique, en passant en revue les trois grandes étapes de l'évolution, qui sont d'une part la loi de 1838, ensuite la loi de 1990, pour en venir enfin à la loi de 2011. Et rien que les intitulés, je dirais, les éléments et les notions fondamentales de ces lois sont déjà en soi représentatives de cette évolution, puisqu'on est passé en 1838 du, je cite, « placement de l'aliéné », en 1990 à « l'hospitalisation du malade », pour arriver en 2011 à « l'admission en soins de la personne ». Rien que sur le plan du vocabulaire, hein, purement sémantique, on dénote évidemment, on note déjà une évolution très profonde, je crois, dans les représentations que je vais essayer d'expliquer un petit peu tout à l'heure. Alors sur la méthode, pour chacune de ces lois, j'essaierai de suivre à peu près le même schéma, c'est-à-dire que pour chaque texte, j'aborderai ce qu'étaient ou ce que sont à présent les modes d'entrée en soins, sans consentement, ou pas d'ailleurs, ce que sont ensuite les modes de prise en charge, prévus par les institutions juridiques, d'analyser ensuite ce que sont les garanties offertes pour la protection des droits et des intérêts de l'individu, et à chaque fois, j'essaierai d'adjoindre donc un petit bilan critique et une analyse des implications de chacun de ces textes. Donc, dans l'ordre chronologique, je commencerai par la loi de 1838 relative au placement de l'aliéné. Alors, la loi de 1838, même si on le verra tout à l'heure, elle a fait ultérieurement, suite à son adoption, l'objet de très profondes critiques, il faut bien comprendre, était quand même une loi de progrès, en tout cas ce qu'on pourrait désigner comme une loi de progrès à l'époque. Elle avait d'ailleurs fait l'objet d'un long débat devant le législateur, et donc adoptée en 1838, je dirais, elle est la représentation de la bourgeoisie libérale, hein, propre à l'époque de la monarchie de Juillet. Alors, il y avait participé tous les plus grands aliénistes du moment, la loi avait été conçue comme une loi d'assistance, en tout cas dans la manière où elle avait été présentée, et aussi une loi de protection, ne serait-ce que parce que c'est vrai, j'insisterai pas tellement sur cet aspect-là, mais elle avait pour effet et pour objet d'offrir à l'aliéné une protection minimale, notamment de son patrimoine, contre les tentatives des tiers, de s'accaparer celui-ci. Alors, c'était une loi présentée comme une loi de protection, en tout cas lorsqu'elle a été adoptée. Ceci dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette présentation formelle peut rapidement être dépassée pour découvrir qu'en réalité, il s'agit principalement en fait d'une loi qu'on pourrait qualifier de protection de la société. Certains auteurs ont parlé de loi de police pour la décrire. En effet, ce texte, par le dispositif purement administratif qu'il met en place, est davantage une loi de tutelle et une loi éventuellement de protection matérielle qu'une véritable loi d'assistance humaine et de prise en charge médicale. Donc cette loi institue un espèce de système médico-administratif dont la pièce maîtresse était assurément et de manière tout à fait explicite le préfet. Alors, sur ce texte, le premier point que je vais aborder concerne la question des modes d'entrée en soins. Et ces modes d'entrée en soins à l'époque sont de deux ordres. En d'autres termes, l'aliéné par principe non consentant aux soins peut faire l'objet de ce qu'on appelle un placement sous deux formes. Le premier placement, qui n'est pas l'ordre de la loi mais que je souhaite adopter ici, c'est le placement, je cite, « ordonné par l'autorité publique » qui sera assez rapidement en pratique désigné comme le placement d'office. Et placement dont on peut indiquer qu'il a délibérément, je dirais, qu'il obéit délibérément à un souci de protection de l'ordre public. Alors, je reprends les éléments du texte qui prévoit qu'il revient à Paris, au préfet de police et dans les départements au préfet d'ordonner d'office le placement dans un établissement d'aliénés de toute personne dont, je cite, « l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes ». Donc c'est une décision qui est prise, j'insiste bien, par une autorité administrative qui est le préfet. La loi prévoit également un cas d'urgence et dispose que, qu'elle désigne le danger imminent, en cas de danger imminent testé par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes ordonneront à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les 24 heures au préfet qui statuera sans délai. Ultérieurement, donc les directeurs ou responsables après le placement donc doivent adresser à l'autorité préfectorale un rapport rédigé par le médecin de l'établissement et ce dans le courant du premier mois de chaque semestre. Un tel rapport doit renseigner sur l'état des personnes, la nature de leur maladie et les résultats du traitement. En d'autres termes, il s'agit d'établir une forme de liaison permanente, même si celle-ci prend, je dirais, effet à intervalles réguliers. Et qui permet au préfet de se prononcer sur chacun individuellement afin de décider du maintien ou de la sortie de la personne retenue. toutefois, petite limite quand même, je dirais, d'une certaine manière, qui assujettissait le préfet à l'obligation, ou en tout cas à l'opinion médicale. Le préfet se voyait dans l'obligation légale de se prononcer immédiatement en cas d'amélioration ou de rétablissement d'un malade constaté au cours d'une période semestrielle et pouvant, sur déclaration médicale, justifier un ordre de sortie. Donc, premier cas de placement, le placement ordonné par l'autorité publique. Donc, vous aurez observé que dans la loi de 1838, lorsqu'il est ordonné par le préfet, il n'est même pas question d'un certificat médical. D'accord ? Ensuite, deuxième type de placement, le placement volontaire, qu'on a, alors, un peu hypocritement appelé le placement volontaire. Il n'a rien de comparable avec ce que nous désignerions à l'heure actuelle comme l'hospitalisation libre. En réalité, ce mode de placement volontaire dans la formulation des textes relevait d'une hypocrisie certaine, puisqu'en fait il s'agissait pour un tiers de demander volontairement le placement d'une autre personne. Il ne s'agissait donc pas d'un acte délibéré et consenti et souhaité de la part d'une personne de se soumettre à des soins psychiatriques, mais bien pour une personne, et en général, on le comprend dans un contexte familial, le père de famille, l'époux, rarement l'épouse, ou parfois les enfants, donc, de solliciter un placement donc en établissement asilaire. C'est pour ça que ce mode de placement a été assez rapidement conçu comme un instrument de tyrannie familiale, puisqu'il suffisait aux proches, la condition étant de fournir un certificat médical quand même, mais un seul, il suffisait aux proches de s'assurer de la compréhension d'un médecin pour obtenir ce qu'on pourrait désigner comme l'enfermement de leur problème familial. Alors, suite au placement, dans les 24 heures, puis dans les 15 jours, des certificats devaient être établis par un médecin de l'établissement et transmis au préfet. Parce que dans tous les cas, même si le placement procédait d'une volonté extérieure, et je dirais privée, c'était le préfet qui était essentiellement chargé du contrôle, la surveillance de ce mode de placement. À noter néanmoins que les membres de la famille de l'aliéné pouvaient également demander la levée de la mesure de placement, pardon, sous certaines réserves, hein, puisque celle-ci pouvait dans certains cas leur être refusée. Voilà donc pour les modes d'entrée en soins. Quant au mode de prise en charge, je dirais les choses se résument assez simplement. L'enfermement était à l'époque conçu comme le seul remède à la folie. On se trouve au cœur de la société bourgeoise du XIXe siècle, et on se trouve donc confronté à l'époque à des modes de prise en charge de la normalité qui reposent sur une logique d'exclusion par enfermement, ce qu'on peut qualifier de système purement disciplinaire. En tout cas, Foucault a assez longuement analysé ce type de prise en charge de la normalité, notamment, je vous renvoie évidemment à son ouvrage essentiel, qui est « Surveiller et punir ». En d'autres termes, la loi de 1838 ne connaissait que deux situations. Malade, l'aliéné était interné, guéri, il devait sortir. Et la loi d'ailleurs le formulait en ces termes, en cas de guérison, l'aliéné ne peut que sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette première moitié du XIXe siècle, l'idée qui prédomine, c'est que, d'une certaine manière, l'aliénation relève de l'évidence. Et je dirais qu'il existe une espèce de cloisonnement étanche entre le fou et le non-fou. Je cite les propos du ministre de l'Intérieur de l'époque, « On est aliéné ou on ne l'est pas ». En somme, il n'y a pas de catégorie intermédiaire entre la folie et la guérison. Alors, bien qu'étant une loi de point suivant, donc voilà pour les modes d'enfermement qui s'expriment assez simplement, et le point suivant quant aux garanties et protections qui sont offertes à l'aliéné dans cette loi, il en existe quand même. C'est-à-dire que la loi de 1838 est une loi de police, mais elle recèle quand même ce qu'on pourrait désigner comme un volet bienveillant à l'égard de l'aliéné, ne serait-ce que parce que, comme je vous l'ai déjà dit, elle tend à mettre en place un système donc d'administration et de protection des biens de l'aliéné, afin de protéger ce patrimoine donc de l'appréhension des tiers. Par ailleurs, la loi de 1838 recèle un certain nombre de dispositions qui mettent en place, on va dire, un embryon de système de garantie. L'objectif étant évidemment de rompre avec le souvenir qui est encore vivace à l'époque de l'ancien régime et des lettres de cachet qui étaient le symbole de l'enfermement arbitraire. On se souviendra que les lettres de cachet même si elle pouvait être employée parfois pour emprisonner des opposants politiques, était principalement utilisée pour mettre au secret des personnes à la demande de famille qui souhaitaient, par exemple, le marquis de Sade, donc se débarrasser d'un problème encombrant et je dirais d'un trouble à l'ordre familial. D'accord ? Alors, au titre des garanties offertes et des protections offertes à l'aliéné, premier point quand même, et ça c'est important, la loi de 1838 met en place un système de contrôle des établissements destinés à recevoir les aliénés. Ainsi, les autorités habilitées, telles que le ministre de l'Intérieur, le président du tribunal, le procureur ou encore le juge de paix et le maire de la commune, étaient chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés. La loi ajoutait d'ailleurs que tout établissement recevant des aliénés devait au préalable obtenir une autorisation du préfet. La visite devait avoir lieu au moins une fois par trimestre par le procureur pour l'établissement public, cette semestrielle, pour l'établissement privé, pardon, et pour les établissements publics, la périodicité était semestrielle. Les mêmes autorités étaient logiquement destinataires d'éventuelles réclamations adressées par les personnes placées, pouvant à l'occasion de situations particulières recueillir, je cite, tout renseignement propre à faire connaître leur position. Donc d'abord, contrôle des établissements, ce qui est déjà un progrès important. Deuxième chose, quant aux conditions d'hébergement, la loi reconnaît, disons, peut-être pas nécessairement des droits à l'aliéné, mais en tout cas des obligations pesant ou des devoirs pesant sur les autorités s'agissant des conditions d'hébergement, et notamment des conditions d'hébergement provisoires des personnes aliénées. En premier lieu, les malades appréhendés dans le cadre des placements ordonnés par l'autorité publique ne peuvent être déposés n'importe où. Les hospices et hôpitaux civils sont tenus de les recevoir. En l'absence de tels établissements, il est de la responsabilité des maires que de pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet. De plus, la loi affirme le droit pour ces personnes de ne pas être assimilées, pour les aliénés, à la population carcérale. Par ailleurs, troisième garantie, troisième protection relativement importante, c'est l'introduction de la possibilité d'un contrôle judiciaire. C'est-à-dire, il n'y a pas de judiciarisation systématique, mais il y a possibilité, dès 1838, d'un contrôle judiciaire. Puisqu'est reconnu le droit à l'aliéné de se pourvoir devant le tribunal compétent, ainsi qu'à son tuteur, à son curateur, à tout parent et ami, dans le but d'obtenir une décision judiciaire de sortie. Ceci dit, j'insiste bien, le texte ne crée pas de contrôle judiciaire systématique, et encore moins de contrôle a priori, puisque par définition, comme je vous l'ai indiqué, la mesure est déclenchée par l'autorité administrative. Alors, quant à un bilan et une critique de cette loi de 1838, je dirais qu'il y a eu deux ordres de critiques qui ont émergé progressivement. Assez tôt, on a vu émerger une critique d'ordre juridique, qui est l'atteinte aux libertés publiques. Parce que la loi de 1838, dans un premier temps, a été considérée comme une espèce de chef-d'œuvre digne d'admiration et d'imitation, et j'insiste bien, elle fut quand même, je dirais, un progrès en vue d'une, je dirais, une meilleure prise en charge plus rationnelle des aliénés. Les critiques, ceci dit, sont assez rapidement intervenues et elles portent en premier lieu sur les formalités visant à l'internement d'une personne pour aliénation mentale. On notera, et je vous ai déjà indiqué, leur caractère sommaire. Un seul certificat médical est exigé pour le placement volontaire et aucun n'est ordonné pour le n'est exigé pour le placement ordonné par l'autorité publique, dans la loi en tout cas. Ce qui, d'après un grand nombre d'observateurs, ne garantit pas sérieusement la liberté individuelle de chacun. En second lieu, il est assez rapidement considéré comme contraire au principe de notre droit que la liberté juridique d'un individu soit altérée sans l'intervention des tribunaux judiciaires et par une pure mesure administrative. Plus globalement, le rôle central du préfet, ordonnateur des mesures de placement dans un cas et contrôleur des autres, est assez profondément contesté. Donc ça, pour les éléments fondamentaux de critique, disons, d'ordre juridique. Mais ce qui va assez rapidement, je dirais, faire évoluer les lignes de faille, c'est la critique d'ordre psychiatrique. Parce que les postulats sur lesquels reposait finalement le régime de la loi de 1838, cette, je dirais, dichotomie très nette entre le fou et le non-fou, et sur la nécessité de l'enfermement, est remise très profondément en cause à partir de la deuxième moitié du XXe siècle par, je dirais, la psychiatrie moderne. Notamment parce que les critiques d'abord émanant du mouvement de l'antipsychiatrie, ainsi que l'apparition de nouvelles approches du phénomène de la folie, comme la psychanalyse, ainsi que les progrès de la pharmacologie, avec l'introduction des neuroleptiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs, donc toutes ces évolutions ont peu à peu remis en cause, au sein même donc du monde de la psychiatrie, l'idée de la nécessité d'une thérapie fondée sur l'isolement et donc sur l'exclusion. Et c'est pourquoi, progressivement, à partir donc du début du XXe siècle, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale, ont été mis en place des modalités de prise en charge, par des institutions ouvertes, des dispensaires. Alors, dans un cadre les soins sans consentement, hein. Mais enfin, des dispensaires d'hygiène mentale, des hôpitaux de jour, des hôpitaux de nuit, des foyers de post-cure, des appartements thérapeutiques. Et je dirais cette politique, je dirais de désinstitutionnalisation de la psychiatrie, a connu, je dirais, sa consécration et son avènement avec la mise en place de ce qu'on a appelé la sectorisation psychiatrique par une circulaire de 1960. Le dispositif préconisé par cette circulaire revient principalement donc à diviser le département en un certain nombre de secteurs géographiques qui comportent à l'heure actuelle, le secteur existe toujours, 60 à 70 000 habitants, à l'intérieur de chacun desquels la même équipe médico-sociale devra assurer pour tous les malades la continuité indispensable entre le dépistage, le traitement sans hospitalisation quand il est possible, les soins avec hospitalisation et enfin la surveillance post-cure. En d'autres termes, il s'agit de considérer que l'hospitalisation n'est plus qu'une phase parmi d'autres et pas forcément indispensable du traitement de l'anormalité qu'est la folie. Et surtout, l'objectif essentiel, je dirais, est de ne pas couper le malade de son environnement social, familial, considérant que, je dirais, cette inclusion, ou cette, peut-être parfois cette réinclusion du malade dans son environnement social, familial, est peut-être en plus une des conditions de sa guérison. Et c'est la loi 85-772 du 25 juillet 85 qui va graver dans le marbre cette politique de sectorisation, qui va reprendre les éléments de la circulaire et les inclure dans le code de la santé publique par le biais d'un dispositif législatif. Alors par ailleurs, cette loi de 1838, la sectorisation, j'insiste bien, au départ est un dispositif, non pas indépendant, mais disjoint en tout cas de la question des soins psychiatriques sans consentement. Mais je dirais, le dispositif lui-même de soins psychiatriques sans consentement, avant même la loi de 90, fera déjà l'objet d'un certain nombre d'aménagements. D'abord, la loi Sécurité et Liberté du 2 février 81 est déjà assez libérale en ce domaine, puisque elle avait déjà permis aux malades de s'adresser au tribunal en la forme des référés, ce qui n'était pas le cas initialement dans la loi de 1838. Et, par ailleurs, suite à cette évolution des consciences dans la psychiatrie, suite à, je dirais, une certaine prise en compte de réformer le régime issu d'un texte quand même datant de 150 ans, en 1988, une mission d'études sur les moyens nécessaires pour développer la recherche et l'évaluation en psychiatrie avait été confiée au professeur Édouard Zarifian, et cette mission avait proposé de rénover le dispositif des soins psychiatriques pour dépasser définitivement la pratique asilaire, et je dirais la prise en charge de la folie hospitalo-centrée. Reprenant à son compte les propositions, Claude Évin donc adopte 30 ans après la circulaire de 60 d'abord une autre circulaire qui renforce la mise en place de la sectorisation. Et suite à cette première étape, donc le ministre de la Santé dépose le projet de loi qui aboutit à la loi de 1990. Donc le débat clos en 1838 reprend en 1990 et l'on retrouve les questions posées par cette vieille loi de police. Deuxième grande partie de cet exposé, la loi de 1990 sur l'hospitalisation du malade. Alors, la loi de 90, la loi du 27 juin 90, comprend quatre chapitres, mais les dispositions les plus attendues figurent au chapitre 3 intitulé « Mode d'hospitalisation sans consentement dans les établissements ». Et l'on peut dire de cette loi qu'elle améliore significativement la protection des personnes en rénovant les procédures non pas en révolutionnant, mais en rénovant les procédures héritées de la loi de 1838. Et j'insiste sur l'évolution de vocabulaire. La loi ne parle plus de placement, elle parle d'hospitalisation. Elle ne parle plus d'aliéné, mais elle parle de malade. Alors là aussi, je vais reprendre les subdivisions que j'avais proposées dans la première partie, en traitant d'abord les modes d'entrée en soins, pour parler ensuite des modes de prise en charge, et ensuite des garanties et protections aux malades, offertes aux malades, et enfin un petit bilan critique sur cette loi. Alors sur les modes d'entrée en soins, et là c'est une grosse innovation, la loi de 1838 ne le prévoyait pas, la loi de 1990 prévoit l'hospitalisation libre. Ce qui ne veut pas dire qu'elle était impossible auparavant, mais elle n'était pas explicitement prévue par les textes. Mais elle était devenue déjà une pratique depuis assez longtemps. Et la loi de 90 prévoit que les malades faisant l'objet d'une hospitalisation libre disposent des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause. En d'autres termes, le malade en hospitalisation libre est assimilé à tout autre type de malade. À côté de cette hospitalisation libre, on retrouve en revanche, et on voit survivre, je dirais, les deux grandes catégories de placement ou d'entrée en soins sans consentement. Le placement d'office devient en revanche l'hospitalisation d'office, HO, c'est comme ça pendant très longtemps qu'il a été désigné. Ce placement est toujours, et maintenant donc cette hospitalisation est toujours décidée par le préfet et justifiée par des considérations de police. Et je cite le texte, il constitue une réponse problème posée par les personnes dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Donc c'est toujours le préfet, et à Paris le préfet de police, qui prononce l'hospitalisation d'office par arrêté. Mais, à compter de cette loi de 1990, innovation quand même significative, le préfet est maintenant formellement dans l'obligation de baser son arrêté sur un certificat médical circonstancié. Je rappelle que la loi de 1838 ne l'avait pas prévu. En revanche, la jurisprudence s'était chargée de l'adjoindre aux conditions prévues, enfin aux conditions à remplir pour prononcer l'hospitalisation. En d'autres termes, la loi de 90 reprend cette condition et l'ancre, la grave dans le marbre, en l'insérant à l'intérieur des dispositions législatives. À côté de cette procédure normale d'hospitalisation d'office, le Code de la Santé publique et la loi de 90 maintiennent la procédure spéciale applicable en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, qui procure donc aux maires et aux commissaires de police des pouvoirs d'urgence. Ce danger est constitué par le comportement des individus révélant, je cite, des troubles mentaux manifestes, attestés par un simple avis médical ou reprenant d'ailleurs une formule peu satisfaisante de la loi de 1838 par la notoriété publique. Voilà pour l'hospitalisation d'office. L'hospitalisation sur demande d'un tiers, abrégée HDT, évolue assez substantiellement. Comme par le passé, la demande d'admission doit être présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci. Mais à ces conditions de forme, la loi ajoute maintenant des conditions de fond, ce qui n'était pas le cas auparavant. Elle prévoit que ne peut faire l'objet d'une telle mesure d'hospitalisation, qu'une personne atteinte de troubles mentaux, que si, je cite, ces troubles rendent impossible son consentement, premièrement, et deuxièmement, si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. L'autre innovation importante est l'institution de la formalité d'un second certificat préalable à l'hospitalisation. Je vous rappelle que dans la loi de 1838, un seul suffisait. L'un et l'autre doivent dater de moins de 15 jours. Alors, cette exigence du double certificat avait été assez profondément contestée par le monde médical qui voyait une source d'alourdissement. Et c'est pour tenir compte de ces remarques que les députés ont ajouté au texte un article prévoyant que, à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade, dûment constaté par le médecin, eh bien, il y a possibilité de prononcer l'admission au vu d'un seul certificat, qui peut même émaner éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil. J'ajouterais que ce mode d'admission en urgence est venu à représenter la moitié, quasiment 48%, des hospitalisations sur demande d'un tiers, à partir de la fin des années 90. Voilà pour les modes d'entrée en soins, très rapidement synthétisés. Quant aux modes de prise en charge, à nouveau à la base, la loi de 90 ne connaît qu'un seul mode, qui est celui de l'hospitalisation. Cependant, même avant la loi de 90, la pratique y avait ajouté une situation médiane fondée sur une simple circulaire de juin 57 qui est celle des sorties d'essai. C'est-à-dire que le malade pouvait être autorisé à quitter l'établissement pour un certain temps, non pas pour une simple promenade ou pour une visite familiale, mais pour préparer sa sortie définitive en testant ses réactions. Donc il s'agit... Et là, je reprends l'exposé des motifs de la loi, de favoriser la réadaptation, la guérison ou l'insertion sociale du malade. Il s'agit donc en somme de prévoir la possibilité de continuer le traitement en dehors de l'hôpital, sous surveillance médicale, assurée dans le cadre du secteur psychiatrique, et donc dans les lieux de soins ouverts. Donc il s'agit d'introduire pour la première fois, je dirais, une forme de modularité qui rompt déjà un peu avec la loi de 1838, qui ne voyait que deux situations, le fou, le non-fou, le fou à guérir et le non-fou qui n'est pas à guérir, dispositif, pour le coup, les sorties d'essai, qui entrevoit déjà, vous voyez, des états intermédiaires entre la folie et la non-folie. Quant aux garanties et protections offertes aux malades, ensuite, la loi renforce assez là, nettement les droits du malade, en prévoyant que, tout d'abord, celui-ci doit être informé de sa situation juridique et de ses droits. Par ailleurs, la loi de 90 poursuit en citant une série de droits existants en tout état de cause, c'est-à-dire quel que soit notamment l'état du malade ou les nécessités du traitement. Alors, je ne vais pas tous les évoquer, mais enfin, on peut les citer. On peut évoquer un certain nombre de droits de la défense permettant aux personnes de faire entendre leur voix en dehors de l'hôpital. Droits, alors, qui existaient déjà pour certains, hein. Droit de communiquer avec certaines autorités. Donc à nouveau le préfet, juge d'instance, président du tribunal, maire, procureur de la République. La personne hospitalisée doit aussi pouvoir prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix. Enfin, elle peut consulter le règlement intérieur et doit pouvoir recevoir les explications nécessaires pour sa compréhension et son application. Il existe également toujours dans la loi un certain nombre de droits fondamentaux sans le respect desquels on considère que le malade perdrait sa dignité. Et je pense pouvoir dire que la loi de 90 insiste beaucoup sur la dignité du malade. D'abord, le droit d'émettre et de recevoir des courriers. On retrouve également la liberté religieuse. Le législateur adopte une formule assez large pour englober toutes les religions et permettre aussi le fait du refus, le refus du fait religieux. Et absent de la loi de 1838, est rappelé le droit de vote, qui doit s'exercer dans les conditions prévues par le code électoral, à l'exception des personnes faisant l'objet d'une mesure d'interdiction judiciaire. Par ailleurs, autre ajout important de la loi prévoit un contrôle plus important de la mesure. D'abord un contrôle médical, qui reprend pour partie, mais pas totalement, ou en tout cas qui excède un contrôle qui existait déjà partiellement dans la loi de 1838. D'abord, dans les 24 heures suivant son admission, la personne hospitalisée doit être présentée à un psychiatre d'établissement qui ne peut pas être l'auteur d'un des deux premiers certificats. C'était un contrôle qui existait déjà pour le placement volontaire, mais il est étendu par la loi de 90 pour l'hospitalisation d'office. Ensuite, deuxième contrôle, dans les 3 jours précédant l'expiration des 15 premiers jours, on retrouve un certificat de quinzaine qui est dressé par un psychiatre de l'établissement qui doit préciser la nature et l'évolution des troubles et indiquer si les conditions d'hospitalisation sont clairement réunies. Par ailleurs, après ce contrôle médical, la loi introduit un contrôle par une commission départementale de l'hospitalisation psychiatrique. En d'autres termes, il s'agit de créer une instance, alors abrégée parfois CODOPSY ou CDHP, qui se compose de 4 personnes qui élisent un président. Donc vous avez un psychiatre désigné par le procureur général de la cour d'appel, un magistrat, 2 personnalités qualifiées, nommées par le préfet ou par le président du conseil général. C'est un instrument, dans la loi de 90, léger et souple, qui n'a pas de compétences décisoires, mais son rôle n'est pas pour autant négligeable, D'abord, parce qu'elle a une mission d'information, toutes les mesures d'hospitalisation doivent lui être, d'hospitalisation forcée, doivent lui être communiquées, et spécialement celles qui font l'objet d'une procédure d'urgence. La codopsie a la possibilité de visiter les établissements, de recueillir les réclamations, de vérifier les informations transcrites sur le registre de l'admission en soins sans consentement, l'hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers. Elle adresse chaque année un rapport au préfet. Bon, en d'autres termes, voilà, création d'une nouvelle instance de surveillance. Et par ailleurs, dernier type de contrôle, la loi de 90 renforce la possibilité du contrôle judiciaire sans poser le principe de la judiciarisation toutefois. Alors je passe un petit peu sur les débats parlementaires, mais qui avaient tous insisté sur la nécessité de renforcer ce contrôle judiciaire, et pour certains qui avaient proposé l'hospitalisation soit d'emblée placée sous le contrôle du juge, voire sous la décision du juge. Ceci dit, le ministère de la Santé avait écarté cette hypothèse en considérant, alors de manière peut-être un peu spécieuse, affirment certains, qu'il s'agissait de ne pas bouleverser les équilibres antérieurs et qu'il s'agissait de ne pas, je dirais, donner tout pouvoir au juge judiciaire sur ce type de mesure. On était même allé jusqu'à arguer de l'incompétence technique du juge judiciaire en matière médicale, en oubliant que le préfet, a priori, eu égard à sa formation, n'est pas beaucoup plus compétent en matière de psychiatrie. Ceci dit, la loi, je dirais, progresse dans la mesure où elle renforce la possibilité de saisir le juge judiciaire. Par exemple, si la personne hospitalisée peut, comme avant, saisir le juge elle-même, sa faiblesse présumée explique une plus large ouverture des cas de saisine. Par exemple, aux personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade, formule qui permet d'englober les personnes déjà prévues, mais également d'autres, puisqu'il puisse agir du curateur, du conjoint, mais aussi du concubin. Pourquoi pas? Donc ces personnes peuvent à tout moment se pourvoir sur simple requête devant le tribunal de président du tribunal de grande instance. Et par ailleurs, la loi prévoit une possibilité aussi d'autosaisine du juge. Alors quant à un petit bilan et une critique de la loi de 90, d'abord la loi de 90 fait assez rapidement, elle n'était pas parfaite, et assez rapidement, je dirais, on s'en est rendu compte. D'abord, elle fait assez rapidement l'objet d'un dépoussiérage à l'occasion de la loi Kouchner du 4 mars 2002, assez marginal, hein, mais ce texte reconnaît et affirme des droits individuels et collectifs aux malades, et donc qui en profite pour dépoussiérer un petit peu les dispositions relatives aux malades hospitalisés sans leur consentement. La loi de 2002, donc, par exemple, renforce les compétences des CDHP, et elle institue une possibilité de sortie accompagnée des patients pour des motifs thérapeutiques ou ponctuels. Donc je dirais, vous voyez, la loi de 90 est assez rapidement modifiée, et je dirais assez rapidement elle est critiquée. D'abord parce qu'on a reproché à la loi de 90 de n'être pas revenue sur le système finalement administratif de déclenchement de la mesure de soins. Le préfet reste le grand décideur et le grand contrôleur, donc décideur de la mesure d'hospitalisation d'office et contrôleur de l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Par ailleurs, on note la persistance d'une quasi-absence du juge judiciaire. Il est possible de le saisir et les cas de saisine sont élargis. Mais en pratique, les saisines demeurent très rares. J'ajoute que par ailleurs, en 2004, le comité des ministres du Conseil de l'Europe avait adopté un texte relatif aux droits des personnes atteintes de troubles mentaux, et son article 20 recommandait, d'après certains auteurs, en tout cas clairement, que la décision de soumettre une personne à un placement involontaire soit prise par un tribunal ou une autre instance compétente en considération de l'avis de la personne concernée, suivant une procédure à mettre en place par la loi. Bon, en d'autres termes, je dirais un certain nombre d'éléments et aussi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme commençait à pousser en direction, je dirais, d'une plus large reconnaissance de la compétence du juge judiciaire. Et je dirais cette quasi-absence du juge judiciaire avait continué à alimenter la critique, et cette critique, on le sait, trouvait son point d'orgue en 2010 avec deux décisions du Conseil constitutionnel, rendu alors même que le projet de loi réformant les modes d'accès aux soins sans consentement, qu'on connaît à l'heure actuelle, était déjà en cours de préparation. Ces deux décisions rendues sur QPC affirmaient sans ambiguïté que la nécessité que le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours, examine de manière automatique la légitimité des mesures d'hospitalisation sans consentement. Bon. Première critique importante. Donc, voilà, en 2010, clairement, le Conseil constitutionnel indique intervention nécessaire du juge judiciaire. Par ailleurs, autre critique importante, je dirais en provenance de la psychiatrie, cette fois-ci, ou dans le cas d'une certaine frange de la psychiatrie, c'est la persistance d'une inadaptation du système de prise en charge. Divers travaux d'évaluation de la loi de 90, commandés notamment par le ministère de la Santé à des professionnels de la psychiatrie, continuaient à, je dirais, fumer un certain nombre de reproches à la loi de 90, je dirais, en la taxant, je dirais, du maintien d'une certaine forme de rigidité ou d'inadaptation. Et je pense notamment au rapport des docteurs Piel et Roland, qui en 2001 avaient d'emblée déjà proposé ce qu'ils avaient appelé une loi déspécifiée pour l'obligation de soins. En d'autres termes, disjoindre l'obligation la décision d'admission en soins des modalités du soin. En d'autres termes, le rapport, dès 2001, propose la mise en place, même s'il n'était pas forcément désigné ainsi à l'époque, mais ce qu'on appelle maintenant, alors de manière pas tout à fait appropriée, mais enfin c'est l'appellation souvent répandue dans le milieu, les soins ambulatoires sans consentement. En d'autres termes, proposer d'emblée une prise en charge sous différentes formes, hospitalisation ou prise en charge ambulatoire, sans consentement dans tous les cas. Et un rapport de l'IGAS et de l'inspection générale des services judiciaires en 2005 avait affiné l'épure et en gros élaboré l'architecture du dispositif que nous connaissons à travers la loi de 2011. Et donc j'en viens maintenant à cette loi de 2011, justement dans le troisième temps de mon exposé. Loi de 2011 qui passe, je dirais, à une autre dimension du soin psychiatrique sans consentement, puisqu'on ne parle plus ni de placement, ni d'hospitalisation, mais d'admission. On ne parle plus d'aliénés, on ne parle plus de malades, on parle de personnes. Alors, comme je viens de vous le dire, la loi de 2011, en fait, est intervenue suite à un tragique fait divers qui avait impliqué un malade mental à Grenoble, si ma mémoire est bonne, et suite, je dirais, à une volonté présidentielle nettement affirmée de contrôler les malades que l'on pourrait qualifier de dangereux. Mais je pense que, même si ces dispositions relatives aux malades dangereux sont importantes, je crois que l'essentiel de la loi n'est pas là. Même si il y a des questions importantes qui se posent vis-à-vis du régime juridique applicable aux malades dangereux, et le Conseil constitutionnel vient de le rappeler. Moi, je crois que l'important dans ce texte, c'est ce qu'il révèle de l'évolution de la logique de la prise en charge psychiatrique sans consentement. C'est une logique paradoxale, mais délibérée, qui est de mieux faire entrer les malades à l'hôpital pour mieux les en faire sortir. J'explique. La loi est placée sous le signe d'un principe fort qui est l'amélioration de l'accès aux soins. Et j'expliquerai ce que ça signifie. C'est-à-dire que la loi vise essentiellement à élargir l'accès aux soins psychiatriques et à développer leur mise en œuvre hors des murs de l'hôpital. Donc, à cette fin, certains cas d'admission en soins sont élargis, ou même d'autres sont créés. Et ensuite, tout en pérennisant la possibilité de l'hospitalisation à plein temps, qu'on appelle alors hospitalisation complète, la loi introduit la possibilité de prendre en charge d'emblée le malade, alors qu'on n'appelle plus le malade maintenant, mais la personne sous d'autres formes. Donc soins ambulatoires, hospitalisation partielle, y inclut, je cite le texte, des soins à domicile. Alors, ce faisant, la loi paraît introduire, je dirais, un traitement de la maladie mentale qui, d'une certaine manière, pourrait être qualifié de moins invasif, et donc de, a priori, plus respectueux de la personne. Et cette impression est très nettement renforcée par l'autre aspect important de la loi de 2011, qui est la création d'un contrôle judiciaire obligatoire des mesures de soins privatifs de liberté. Et moi, je crois qu'il ne faut pas s'abuser sur cette loi. Et il me semble que cette latitude offerte, je dirais, tant aux malades ou à la personne, qu'au corps médical traduit en réalité la montée en puissance de rapports d'un nouveau type dans cette triangulation entre le malade, le médecin et l'autorité publique. Ce que je veux dire, c'est que cette loi effectivement ouvre de nouveaux droits, de nouvelles garanties aux malades, mais en même temps, elle traduit une dynamique de renforcement tendanciel des devoirs du malade, qui manifeste, je crois, ce qu'on pourrait désigner comme l'essence des modes de l'action publique contemporaine et de la nouvelle ingénierie sociale. Alors, je vais là aussi passer en revue les trois points, mode d'entrée en soins, mode de prise en charge et garantie offerte à la personne. Alors, quant au mode d'entrée en soins, l'hospitalisation d'office devient l'admission sur décision du représentant de l'État. Elle ne connaît pas de modification notable, en tout cas dans la loi de 2011. Les critères sont les mêmes. On note d'ailleurs que le préfet ne se prononce toujours qu'au vu d'un seul certificat médical circonstancié, ce qui est déjà susceptible de susciter la critique, mais enfin bon. La seule, je dirais, modification notable, c'est une décision du Conseil constitutionnel d'octobre 2011 qui l'apporte et qui supprime la possibilité pour la procédure d'urgence de se fonder sur la, je cite, la notoriété publique, hein, considérant qu'un tel critère n'est pas opérant eu égard à sa subjectivité, ou à la subjectivité qu'il porte. Voilà pour l'ex-HO, donc maintenant admission sur représentant de l'État. Il y existe, une espèce de sous-catégorie de sa admission sur décision du représentant de l'État, qui d'ailleurs n'est pas une admission sur décision du représentant de l'État, mais une admission sur décision du juge judiciaire. Alors, elle n'a pas été créée par la loi de 2011, mais par la loi du 25 février 2008, si vous vous souvenez, la loi relative à la rétention de sûreté et aux mesures qui peuvent être appliquées aux personnes faisant l'objet d'une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Et depuis cette loi du 25 février 2008, le juge pénal, le juge répressif, peut, de sa propre initiative, prononcer, alors à l'époque, l'hospitalisation d'office, en 2008, et maintenant l'admission en soins sans consentement de la personne. Et donc, je dirais d'une certaine manière, anticiper finalement la décision du préfet. J'ajoute que la loi de 2011 adjoint à ce type de public, ainsi qu'aux personnes ayant fait dès auparavant l'objet d'une hospitalisation en unité pour malades difficiles, ainsi qu'aux personnes ayant fait l'objet d'un classement sans suite, suite à infraction pénale, pour cause, là aussi, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, donc les assigne à une forme de régime spécifique, donc qui soumet d'abord la décision relative au mode de placement en soins, on en reparlera, mode de prise en charge, et ensuite à la cessation de ces mesures, à un régime particulier, notamment en exigeant l'intervention d'un collège pluridisciplinaire. Donc, par exemple, la prise en charge ne peut être décidée sous une forme autre que l'hospitalisation complète qu'après que le préfet a recueilli l'avis d'un collège constitué de deux psychiatres et d'un membre de l'équipe pluridisciplinaire de soins. On notera que ce régime spécifique, néanmoins, et notamment s'agissant des malades hospitalisés en UMD et des malades, disons arrivés suite à classement sans suite pour cause d'irresponsabilité pénale, a fait l'objet d'une censure partielle par le Conseil constitutionnel le 20 avril 2012. En d'autres termes, je dirais, voilà, sous catégorie en quelque sorte, admission en soins sans consentement sur décision du juge judiciaire qui est ensuite soumise au régime de l'admission sur décision du préfet. Deuxième catégorie d'admission, c'est l'admission que je désignerai comme l'admission sur décision du directeur d'établissement. Parce que là, on voit une grande nouveauté. On voit persister, première hypothèse, admission sur demande d'un tiers. Les critères sont globalement les mêmes qu'auparavant. On maintient l'exigence du double certificat et on maintient également la possibilité de la procédure d'urgence, qui permet donc de décider l'admission sur base d'un seul certificat, mais là je voudrais souligner un point, le critère glisse vers le bas. La procédure d'urgence pour l'admission sur demande d'un tiers n'est plus soumise au critère du péril imminent, mais au critère du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. En revanche, le critère du péril imminent est maintenant destiné à un autre mode de placement, enfin un autre mode plutôt d'admission, qui est créé par la loi de 2011, qui est ce que je pourrais désigner comme une procédure d'extrême urgence, qui permet au directeur de l'établissement, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers, de prononcer la décision sur base d'un seul certificat en cas de péril imminent pour la santé de la personne. D'autres termes, pas de décision du préfet, pas de demande du tiers. Simplement décision du directeur suite à certificat médical. Alors c'est une décision qui trouve une innovation qui trouve son origine dans une décision du Conseil d'État de 2003. Parce qu'il faut savoir qu'avant la loi de 2011, pour les malades pour lesquels on ne pouvait pas trouver de tiers, il était devenu, je dirais pas d'usage, mais pratiqué par exemple l'administrateur de garde d'un établissement ou bien qu'une assistante sociale fasse office de tiers demandeur. Mais la décision du Conseil d'État de 2003, qui portait d'ailleurs sur un litige relatif au centre hospitalier spécialisé de Caen, avait décidé que il ne pouvait s'agir, pour ce qui concerne le tiers, que, je cite, une personne justifiant d'un lien de parenté avec le malade ou de l'existence de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. En d'autres termes, plus possible à présent pour ces voilà, ces personnels donc d'établissement par exemple, de se s'instaurer comme les demandeurs à la mesure. Et néanmoins, les travaux d'évaluation de la loi de 90 avaient souligné la nécessité pour les établissements de disposer d'un cas d'admission en l'absence de possibilité de trouver un tiers. Donc c'est la raison de la création de ce nouveau cas. Alors c'est un cas qui est évidemment soumis à un régime plus étroit, notamment parce que le rôle de la CDHP, alors qu'il n'est plus la CDHP, mais la commission départementale des soins psychiatriques, voilà, c'est plus des hospitalisations psychiatriques, mais des soins psychiatriques, donc voit ses compétences renforcées. Ce que je veux dire par là, pour clore sur la question des modes d'admission, on n'a plus maintenant deux cas comme avant, on en a quatre. Décision du préfet, décision du juge pénal, demande du tiers, décision du directeur d'établissement hors demande du tiers. Et c'est là que je veux souligner que la loi manifeste sa volonté d'élargir ce qu'on a appelé l'accès aux soins. Ce qui est une question qui est intéressante parce qu'elle soulève quelques paradoxes juridiques, mais ça j'évoquerai tout à l'heure. Deuxième point sur les modes de prise en charge. Sur les modes de prise en charge, eh bien là on passe de l'hospitalisation, sans consentement, à l'admission en soins, et même pas sans consentement d'ailleurs dans la loi. En d'autres termes, la loi introduit d'emblée la possibilité de diversifier les modes de prise en charge. C'est-à-dire qu'elle indique qu'après une période d'observation de 72 heures, il est possible donc soit de maintenir une forme d'hospitalisation, enfin une hospitalisation complète, soit de prendre le malade ou la personne en charge sous une autre forme, qui peut donc que je reprenne les termes de la loi, avoir lieu donc sous une forme autre incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile et le cas échéant des séjours effectués dans un établissement de soins. Et dans ce second cas, la prise en charge se déroulera sous la base d'un programme de soins précisant la forme que revêt l'hospitalisation partielle en établissement de santé. Par ailleurs, puisqu'il est possible de moduler d'emblée la prise en charge, la loi prévoit qu'il est possible de la modifier à tout moment. La loi prévoit, en gros, en somme, donc, l'introduction d'une modularité permanente dans les soins sans consentement. Alors, elle ne tient pas de la révolution, mais de la simple évolution, puisque je vous ai parlé de la possibilité des sorties d'essai, qui existent déjà avant. Mais, je dirais, la loi, introduit non pas une incertitude permanente, mais une modularité permanente, en fonction de l'évolution de l'état du malade, ou de la personne, mais aussi en fonction de son comportement. Et j'insiste sur ce point. Tout ça répond, à ce que j'ai déjà évoqué, une logique de désinstitutionnalisation de la prise en charge de la maladie mentale qui avait été introduite par le secteur de psychiatrie. Mais en gros, il s'agit maintenant d'y adjoindre une dimension contraignante. Et c'est là que, l'essence du projet porté par le secteur, et disent certains, est dénaturée. Le secteur étant fondé à l'origine sur le respect de la subjectivité du patient, il ne saurait pas être question de soins sans consentement. La loi introduit, du secteur de la prise en charge sectorisée sans consentement, d'une certaine manière. La création de cette modularité, je vous l'ai dit, elle est aussi placée sous le signe de l'accès aux soins. Alors, l'accès aux soins, je préfère en préciser les fondements, découle de l'article 1110-5 du Code de la santé publique et du droit à la protection de la santé énoncé à l'article 11 du préambule de la Constitution de 46. Et c'est un principe qui vise à garantir la possibilité pour l'individu de recevoir les prestations nécessitées par son état de santé. Donc la raison de l'introduction de cette modularité des soins repose sur le fait qu'on estimait que le système ancien n'y parvenait pas tout à fait. D'abord parce qu'on considérait que le système ancien, qui faisait reposer en large part le déclenchement de la mesure sur les tiers, freinait les demandes d'admission, dans la mesure où les tiers, parfois, regimbaient à présenter des demandes d'admission ou d'hospitalisation parce qu'ils craignaient en fait cette mesure qui serait forcément privative de liberté. Donc là, il est attendu que, puisque les tiers n'auraient qu'à supporter une demande de soins et non pas une demande de privation de liberté, les demandes d'admission affluent. Deuxième idée, toujours au nom de l'accès aux soins, on considérait que le système ancien qui ne prévoyait que l'hospitalisation, ne permettait pas de proposer les soins forcément les plus appropriés pour certains types de personnes. hein, en ce qu'on pourrait désigner comme, je dirais, des demi-fous qui pouvaient témoigner d'une part de discernement, voire de consentement. Et pour ces personnes-là, l'hospitalisation, donc fermée, n'était pas forcément le meilleur moyen thérapeutique, donc de la prise en charge en milieu ouvert, aurait été plus appropriée, et donc aurait été la manifestation de soins plus adaptés à l'état de la personne. Alors, voilà en gros pour, très rapidement aussi, pour cette modularité, qui est très intéressante, et je pense très intéressante, qui a été proposée au nom de l'accès aux soins. Alors, quant aux garanties offertes à la personne faisant l'objet de soins, on le sait, la garantie essentielle, c'est l'institution d'un contrôle judiciaire systématique des mesures de soins privatives de liberté. En d'autres termes, des hospitalisations complètes, mais pas des mesures ayant des prises en charge mises en œuvre sous une forme autre, nos fameux soins ambulatoires sans consentement. Alors, le contrôle doit intervenir dans un délai de 15 jours, obligatoirement, puis tous les 6 mois. Alors, ce dispositif, je dirais, qui constitue une forme de judiciarisation, hein, donc de la mesure de soins sans consentement, était attendu. Il a suscité un certain nombre de critiques, quand même, notamment de la part des professionnels de la psychiatrie, qui soulignent, parmi d'autres éléments de la loi, la lourdeur qu'il introduit. Par ailleurs, le risque que le malade, je dirais d'une certaine manière, se réfugie dans une posture de défiance, hein, au nom de l'intervention à venir du juge, et donc refuse les soins qu'on lui propose. D'une certaine manière, le contrôle du juge qui intervient au bout de 15 jours serait de nature à retarder ce qu'on pourrait appeler l'alliance thérapeutique, hein, entre le malade, et, enfin la personne, et le médecin. Ceci dit, je pense que c'est le prix à payer, hein, pour un contrôle juridictionnel qui me paraît nécessaire au regard du rôle qui est affecté au juge par l'article 66 de la Constitution. Alors, je voudrais finir par un petit bilan, une petite critique. En tout cas, un bilan, c'est un peu tôt, mais une observation critique sur cette loi de 2011. Parce qu'il me semble que cette loi, elle interroge quand même très profondément certaines évolutions quant au rapport entre l'individu, la psychiatrie et l'autorité publique, comme je l'ai indiqué au début de cette conférence. Je noterai que, comme je vous l'ai dit, les innovations de cette loi de 2011 ont été apportées au nom, je cite, de l'accès aux soins. Alors ça, c'est dans les travaux préparatoires, c'est dans les motifs. Moi, j'ai envie de dire, en tant que technicien du droit, je définirais l'accès aux soins, et là, je cite Madame Brigitte Feuillet-Lemaintier, professeure à l'université de Rennes, pardon, qui définit l'expression « accès aux soins » comme un droit d'accéder aux soins. Et j'insiste bien, un droit d'accéder aux soins. Et moi, j'ai envie de dire, au plan, je dirais, de la sémantique juridique et aussi de la technique juridique. En quoi, je dirais, un droit d'accéder aux soins est de nature à justifier des mesures de soins qui sont décidées sans le consentement d'une personne, voire contre le consentement d'une personne. Je veux dire qu'on a une espèce de paradoxe au plan de la sémantique législative qui est assez étonnant. Mais je crois que l'intérêt de ce paradoxe, c'est précisément que sa réduction permet de révéler la logique sous-jacente, à mon avis, de la loi. À savoir que la loi manifeste l'émergence d'une injonction de prendre soin de sa santé, qui aboutit à ce que, certes, si l'individu a un droit d'être soigné, ça c'est la Constitution de 46, préambule de la Constitution de 46, l'outillage juridique tend à développer les cas dans lesquels il a pour devoir de se soigner, et je dirais tout particulièrement en matière de santé mentale. D'abord, alors je reviendrai très rapidement sur le fait que la loi, je vous l'ai dit, élargit quand même notablement les cas d'admission en soins, et il y avait eu d'autres textes précédents qui l'avaient déjà fait. Donc je dirais que cette loi manifeste, à côté du souci traditionnel de préservation de l'ordre public, hein, décision du préfet, et à côté du souci de préservation de l'ordre familial, demande du tiers, eh bien l'émergence d'une forme d'ordre sanitaire, me semble-t-il, qui fonde sa propre logique d'admission en soins. Et je veux dire plus globalement aussi que cette loi de 2011 s'inscrit au soin d'une évolution plus générale, hein, qui est manifestée par les sciences sociales, qui est ce qu'on appelle le passage de la médecine de la maladie à la médecine de la santé, qui consiste en gros à considérer que l'objet essentiel de la pratique médicale n'est plus tant, le centre d'intérêt de la médecine en tant que discipline n'est plus tant la maladie, et donc la défaillance de l'organisme, que l'individu lui-même, la personne, hein, qui est, placée entre les mains de la discipline médicale, et de la personne, l'individu institué comme acteur principal de la préservation de sa santé. Ce que je veux dire par là, pensez à la définition de l'OMS de la santé, qui dit que la santé, ça n'est pas une absence de maladie, ne se réduit pas à l'absence de maladie, c'est un état, je cite, de complet bien-être physique, mental et social, donc il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc la santé, c'est pas simplement une absence de maladie, c'est une espèce de recherche de félicité. Donc l'aspect négatif de la santé qui est réparé, l'état dégradé par une pathologie, ça c'est toujours la compétence du médecin. Mais j'irais l'aspect positif, j'irais atteindre cette espèce de nirvana, en quelque sorte, hein, d'état homéostatique, ataraxique. Ça, c'est la responsabilité de l'individu, qui doit se mobiliser pour y parvenir. Alors j'ai envie de dire que cette évolution au plan de la santé mentale, elle était déjà en germe dans la loi de 90. En prévoyant notamment que l'hospitalisation psychiatrique peut être libre. Parce que dire que l'hospitalisation psychiatrique peut être libre, ça consiste à présumer que même une personne atteinte de troubles mentaux peut se prendre en main et de sa propre initiative, prendre la décision d'aller se faire hospitaliser pour se faire soigner. Et j'ajouterais aussi, à titre d'indice, qui renforce cette évolution, c'est quand même net, à mon avis, dans la loi du 5 juillet 2011, qu'on ne parle plus ni d'aliéné, ni de malade, mais de personne. Il y a alors quelques occurrences encore du mot malade, mais c'est très très rare. L'individu placé au centre du processus, ça n'est plus un aliéné, ça n'est plus un malade, c'est une personne. Alors la définition d'une personne au plan juridique, je vous rappelle, c'est d'être titulaire de droits et d'obligations. Et y compris, pourquoi pas, celle de soigner. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est que les soins sans consentement ambulatoire, nos fameux soins ambulatoires sans consentement, les soins mis en œuvre sous une forme autre que l'hospitalisation complète, eh bien, j'irais me semble concrétiser cette évolution. Alors on les a parfois présentés comme une mesure plus favorable, parce que pas d'enfermement, plus respectueux de la personne. Moi je pense, et d'autres auteurs le pensent avec moi, et notamment je pense à Madame Théron de l'Université de Toulouse, qui souligne l'ambiguïté de cette modalité de prise en charge. Parce qu'on a affaire à une personne qui se retrouve dans une espèce de situation, je dirais, de semi-autonomie, de semi-enfermement, à laquelle on impose des soins indépendamment d'une hospitalisation, indépendamment d'une hospitalisation d'office. Donc, situation nouvelle et hybride, un mi-chemin entre méconnaissance de l'autonomie et liberté relative de l'individu. Et j'ai envie de dire, cette dynamique, elle est très clairement renforcée, je dirais, involontairement, à mon avis, par la décision du Conseil constitutionnel du 24 avril 2011. Cette décision, je vous le rappelle, alors la question qui se posait, c'était de savoir si les soins ambulatoires sans consentement pouvaient avoir lieu de manière forcée. En d'autres termes, la question qui se posait, par exemple, c'était de savoir si les malades qui faisaient l'objet d'hospitalisation partielle, hein, c'est-à-dire qui n'étaient pas en hospitalisation complète, c'est-à-dire à temps plein et continu, mais qui faisaient simplement périodiquement des séjours en établissement, pouvaient faire l'objet de mesures de contrainte. En d'autres termes, est-ce qu'ils devaient être placés en pavillon fermé? Ou bien, est-ce qu'on aurait pu, je dirais par la force, d'une certaine manière, imposer des mesures de contention à une personne faisant l'objet de ces fameux programmes de soins? Réponse du Conseil constitutionnel, non. Et là, je cite la partie la plus intéressante de cette décision. Le Conseil constitutionnel emploie un raisonnement assez abscon, me semble-t-il. Il écrit que lorsqu'un patient est soumis à une obligation de soins psychiatriques pouvant comporter, le cas échéant, des séjours en établissement, les dispositions donc du Code de la santé publique n'autorisent pas l'exécution d'une telle obligation sous la contrainte. Donc ces personnes ne sauraient se voir administrer des soins de manière coercitive, ni être conduites ou maintenues de force pour accomplir ces séjours en établissement prévu par le programme de soins. Alors moi je suis assez perplexe, parce qu'on a affaire, en gros, qu'est-ce qu'il faut comprendre? On a affaire à des personnes dont on vient de dire qu'a priori ne sont pas en état de consentir. C'est même ce qui déclenche l'essence de la mesure. Enfin c'est même l'essence de ça qui déclenche la mesure, je veux dire. Mais en même temps, ces personnes qui ne sont pas en état de consentir, eh bien, on indique qu'on ne peut pas les soigner pour autant sans leur consentement. Ou plus exactement que si elles manifestent un non-consentement à la mesure, eh bien, il n'est pas possible de transgresser ce non-consentement. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'est possible de rien faire. Là, pour le coup, le Code de la santé publique prévoit clairement, et je cite l'article L3211-11 du Code de la santé publique, prévoit que, je cite, lorsque la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état, eh bien il est possible de procéder à une réhospitalisation. On a donc en fait, j'irais à faire une espèce de mesure intermédiaire dans laquelle la personne n'est pas contrainte, mais j'irais menacée d'une certaine manière. Alors, moi ça me soulève deux questions. Qu'est-ce que le consentement, de ce point de vue-là, à l'heure actuelle? Qu'est-ce que le consentement aux soins? Qu'est-ce que le consentement, ou je dirais le non-consentement d'une personne qu'on présume pourtant ne pas pouvoir consentir? Et je crois qu'il y a un travail de réflexion des juristes à mener sur cette notion de consentement qui n'a pas été menée à terme, notamment sur cette question-là des soins psychiatriques. Et deuxième chose, j'ai envie de dire, ce consentement ou ce non-consentement, est-ce qu'il n'est pas vicié? À partir du moment où on vous dit vous devez accepter les soins, ou vous conseille d'accepter les soins, sinon vous êtes privé de liberté, si consentement il y a, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a une forme de vice du consentement? Là, je fais un petit parallèle avec ce qu'on appelle les injonctions de soins. les injonctions de soins qui existent pour les personnes qui font l'objet d'une condamnation pénale. Les infractions à caractère sexuel notamment peuvent donner lieu à condamnation à injonction de soins. Et lorsque le juge prononce au titre de mesure de sûreté cette injonction de soins, il informe le patient, voilà, plutôt le condamné, lapsus linguae, il informe le condamné que donc son obligation d'aller suivre des soins psychiatriques essentiellement, mais il l'informe en même temps que aucun acte de soins ne pourra être entamé sans son consentement. Mais le juge doit ajouter qu'il informe, enfin le juge doit néanmoins informer la personne que si elle refuse ces actes de soins, une mesure privative de liberté pourra être mise à exécution. Donc j'ai envie de dire à nouveau un peu la même chose. Qu'est-ce que c'est que ce consentement qu'on attend d'une personne en lui disant « si tu n'acceptes pas, tu es emprisonné ». Je vous rappelle quand même qu'en droit de la santé, le consentement doit être, je cite, « libre et éclairé ». Je crois qu'il y a toute une question autour du statut du consentement qui est à retravailler autour du problème des soins, notamment des soins psychiatriques. Alors, je vais essayer de conclure parce que j'ai déjà dépassé malheureusement, mais les protestations émises à l'encontre de la loi du 5 juillet 2011, à mon avis, elles témoignent quand même de... Et je crois qu'il faut se rappeler que ces protestations, elles émanent principalement, pas seulement, mais principalement des psychiatres eux-mêmes. Elles traduisent, à mon avis, leur crainte d'être affectées à une espèce à une fonction d'instance de régulation biopolitique. Parce que je crois qu'une des craintes de la psychiatrie, c'est d'être maintenant voué à distribuer un petit peu dans l'ensemble du corps social les prises en charge sans consentement. Il me semble que ça, de la part d'un certain nombre de professionnels de la psychiatrie, ça n'est pas la conception qu'ils se font du métier. Et je pense notamment au docteur Bayon qui a souvent écrit sur ce sujet. Ça souligne aussi, à mon avis, l'évolution, je dirais, de ce qu'on pourrait appeler le passage de la société disciplinaire décrite par Foucault à la société de contrôle qui avait été, je dirais, prophétisée par Gilles Deleuze. En d'autres termes, voyez, la prise en charge de la normalité ne repose plus sur une logique d'exclusion, d'enfermement et de redressement, mais sur une gestion des problématiques liées à certains groupes et individus au cœur de la cité, par dispersion de mécanismes de correction souples et protéiformes, qui, j'irais tout en manifestant une volonté de respecter la liberté individuelle en réalité, voire en se fondant sur elle parfois, vise à conduire chacun à exercer celle-ci de manière conforme à des normes, et là je dis normes plutôt au sens de Canguilhem, et pas forcément du philosophe donc de la médecine, qui était Georges Canguilhem, et pas normes au sens juridique, je dirais une espèce de moyenne de comportement, d'une certaine manière. Et je dirais que cette dispersion hors les murs du soin, elle me semble qu'elle manifeste un approfondissement, ou en tout cas un élargissement du ce qu'on pourrait appeler le biopouvoir, qui marque très clairement donc le passage des modes de gestion du vivant humain propre à la société moderne de type disciplinaire, donc coercition-exclusion, à des modes nouveaux dans lesquels on contrôle la personne sans forcément, vous voyez, la contraindre. Donc, il me semble que par là, la norme s'est déplacée. Donc, vous voyez, au XIXe siècle, la loi de 1838, opposition duale, fou non fou. Je crois qu'à l'heure actuelle, on n'est plus sur cette opposition duale entre fou et non fou. On est sur une opposition entre personne se soignant et collaborant aux soins, et personne ne se soignant pas et ne collaborant pas aux soins. D'accord ? Et je dirais que c'est autour, voyez, de cette articulation personne collaborant, non collaborante, que finalement la mesure de contrainte vient se greffer. Une dernière petite chose, contrôle. Quand je dis contrôle, société de contrôle, ça ne veut pas dire asservissement. Vous avez des travaux très intéressants, et je pense notamment à ceux d'un collègue, à la fois juriste et sociologue, qui est Michel Justinianos, qui travaille à l'université de Rouen, qui a bien montré qu'il ne faut pas voir là-dedans, je dirais, dans une volonté paranoïaque, une espèce d'intention complotiste et délibérée d'asservir les masses. Mais je dirais bien véritablement une évolution. Donc pas de big brotherisme, comme il l'explique, mais je dirais bel et bien une évolution des représentations anthropologiques contemporaines et une évolution du rôle de l'État qui estime que sa fonction est d'accompagner autant que possible les personnes vers une réacquisition des capacités et des habilités, on dirait d'une certaine manière en traduisant l'anglais, à se mouvoir dans un environnement socio-technique. Et je dirais, ben pourquoi pas, d'une certaine manière, si elles ne le font pas elles-mêmes, de les accompagner par des formes de contraintes douces ou de contraintes mesurées ou de semi-contraintes. Au bout de tout ça se trouve le fameux graal de, je dirais, la société contemporaine, la santé que chacun vise, qui est une espèce de, je dirais, de nirvana. Et je crois que dans plein de domaines, l'État assume maintenant sa volonté délibérée, je dirais, voilà, d'encadrer les individus vers le recouvrement de la santé, y compris maintenant vers la santé mentale, ce qui pose quand même certaines questions sur le fait de savoir, et qui sont très éminemment politiques, s'il est du rôle de l'État de, je dirais, de se préoccuper toujours plus étroitement de ce qui se passe à l'intérieur de la vie psychique des individus. Voilà, je vous remercie de votre attention.